Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler du discours du mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep à propos de l'Union Européenne, rebaptisée l'Europe par ce spécialiste de l'à peu près. Alors c'est parti, paix. Paix, sauf en ex-Yougoslavie, sauf en Ukraine, sauf pour les pauvres également. Ah oui, non, la guerre aux pauvres, ça, on peut pas faire contre, on peut pas faire moins en tant que libéral. Et puis croissance du PIB, c'est important. Bon ben voilà, 1h50 de résumé, ça fait lège, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a écouté et ben on n'a pas tiré grand-chose. On aurait pu vous parler de la condamnation définitive de François Fillon, de sa femme et son suppléant. On dirait un titre de film, François Fillon, sa femme et son suppléant. Donc la justice considère que le vertueux François Fillon a bien arnaqué la communauté pendant des années en embauchant sa femme. Voilà. Maintenant, la justice considère également qu'il a peut-être été trop condamné et donc il faudrait refaire un procès juste pour sa condamnation. C'est quand même sympa de faire partie des élus de la République pour l'éternité et d'avoir à un moment ses entrées dans les salons où l'on cause et où on peut rencontrer des juges, des procureurs, des ministres de la justice, des choses comme ça. On aurait pu vous parler des activités de plein air qui occupent les étudiants à travers le monde en ce moment, mettre le dawa pour faire pression sur l'extrême droite israélienne au pouvoir en Israël et à la manœuvre dans l'organisation des massacres à Gaza. Ça occupe une partie des étudiants. Heureusement, la police intervient partout dans le monde pour faire respecter l'ordre. Et en France, les livraisons de matériel servant à l'armée israélienne n'ont pas cessé. Comme ils disent déjà, la croissance du PIB. Que vaut la vie à côté de la croissance du PIB? Allez savoir. Samedi 27 avril, malheureusement, comme tous les samedis depuis octobre, à 14h au Mans, rendez-vous place de la République pour à nouveau réclamer l'application du cessez-le-feu décidé par les Nations Unies. On aurait pu vous parler de résistance. Au quotidien, des milliers de salariés se battent pour améliorer leurs conditions de travail et leur rémunération. Le 1er mai est l'occasion de fêter la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses. Et non pas pour fêter le travail. Non, non, cette valeur de droite qui nous veut asservie au désir de démesure des donneurs d'ordre. Au Mans, le 1er mai aura lieu dans le parc du Gué de Maulny à partir de 10h, donc mercredi 1er mai. À partir de 10h, parc du Gué de Maulny, avec un village des luttes, des prises de parole, des débats, des infos, etc. 1er mai, journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses. Gué de Maulny, à partir de 10h, qu'on se le dise. On aurait pu vous parler de la propagande pour la grand-messe de nationalisme sportif. D'aucuns veulent d'ailleurs participer à leur manière. Allez donc voir sur zbeul2024.noblogs.org, zbeul2024.noblogs.org et saccage2024.noblogs.org pour plus d'informations. Mais finalement, on a préféré aborder un sujet peu abordé, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est la culture de l'entrave en démocratie représentative. Samedi 23 mars, à la Fonderie, avait lieu une journée d'information sur la psychiatrie. Le collectif Encore Heureux avait invité notamment Mathieu Bellassène pour son livre « Abolir la contention », paru aux éditions Libertalia en 2023. Et en premier lieu, à propos de la contention, donnons un chiffre qui n'est pas des plus drôles, c'est le moins qu'on puisse dire.
Quand même, la contention, ça fait des morts. Dans un rapport de 2020 de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, entre 2011 et 2019, il y a eu 42 morts déclarées. Donc il y en a plein qui ne sont pas déclarées. Et c'est aussi ça la réalité de cette pratique, c'est que ça tue.
Et donc ce n'est pas une pratique anodine. Entraver quelqu'un, l'empêcher de bouger n'a rien d'anodin. C'est justement contre cette pratique que Mathieu Bellassène a écrit un livre. Mais Mathieu Bellassène, qui est-ce? Il le dit très bien lui-même, alors on va le laisser faire.
Mathieu Bellassène, je suis psychiatre et auteur, et notamment le dernier livre, c'est « Abolir la contention, sortir de la culture de l'entrave » chez Libertalia.
Voilà, ça le mérite d'être clair. Alors parlons-en de ce livre et de son sujet, la contention.
Est-ce qu'on peut déjà donner une définition de ce qu'est la contention?
Ce dont je parle dans le livre, c'est la contention mécanique, c'est-à-dire le fait d'attacher une personne avec des sangles au bras, aux pieds, enfin aux jambes et à l'abdomen, ce qui est une pratique qui est utilisée en psychiatrie, et c'est celle-là dont je parle, mais aussi dans d'autres espaces comme les urgences, en réanimation, dans certains foyers, lieux de vie, dans les ambulances pour le transport des personnes, dans des EHPAD aussi. Donc voilà, c'est une pratique où finalement on va attacher, où on va restreindre le mouvement de la personne.
Cette contention, est-ce qu'elle a un cadre légal, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une autorisation donnée pour contentionner les personnes ?
Justement, le livre, en fait, il s'intéresse à la contention mécanique dans les services de psychiatrie parce que c'est le seul endroit où elle est encadrée légalement. Il faut dire que le phénomène, c'est 10 000 personnes par an en France qui sont contentionnées, attachées. Il y en a 30 000 qui sont mis en chambre d'isolement et sur les 80 000 personnes hospitalisées sans leur accord en psychiatrie. Donc, le cadre de la contention en psychiatrie, il est encadré parce que on peut attacher quelqu'un s'il est hospitalisé sans son consentement. Hein. Cet encadrement légal, en fait, existe depuis 2020. Avant, il n'existait pas. C'est le juge des libertés de la détention qui l'encadre. Et en fait, depuis 2020, en 2020, 2021, 2022, le gouvernement a toujours été forcé de légiférer sur la contention, parce qu'à chaque fois, soit il n'y avait pas de loi, soit quand il y a une loi qu'il discute dans la loi de finances de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on ne discute jamais à l'Assemblée nationale dans un cadre juste pour parler de cette pratique, et ben à chaque fois, le gouvernement s'est exposé à des non-constitutionnalités et a évité en fait un débat profond sur est-ce que c'est une pratique de soins ou pas. Parce qu'en fait, le livre, si je l'ai écrit, c'est pour essayer de poser cette question dans le débat public, à savoir, est-ce que c'est un soin ? Parce que qui dit c'est un soin, on fait ça pour le bien de la personne, donc bah voilà, ça va, on peut continuer. Ou est-ce que c'est une pratique de sécurité, de contrôle ? Peut-être qu'il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Par exemple, quand un enfant il se débat parce qu'il ne veut pas une prise de sang et qu'on lui attache le bras ou qu'on lui immobilise le bras, les soignants, à ce moment-là, ne disent pas que c'est un soin. Ils disent que c'est une mesure de contrôle ou de protection pour permettre de faire la prise de sang, par exemple. Mais en psychiatrie, il y a cette idée assez saugrenue, comme beaucoup de pratiques en psychiatrie, où on peut faire les pires horreurs, mais on va dire que ce sont des soins. Et en fait, le Conseil de l'Europe, en 1994, dit que la contention est une torture. Alors, il va réviser son jugement au début des années 2000. Et en tout cas, il va dire à chaque fois que c'est une pratique de dernier recours, qu'il faut mettre en place des alternatives, etc. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit en France, c'est que on s'habitue à cette pratique, on se réhabitue à cette pratique. Et le fond de l'affaire, c'est on s'y habitue, on s'y réhabitue parce qu'on est dans des pénuries de professionnels, mais on est dans des pénuries de formation, on est dans des pénuries de savoir-faire avec l'angoisse existentielle, et on est dans plein de pénuries. Et en fait, la contention, elle est le révélateur de tout un système que dans le livre, j'appelle le système contentionnaire. Alors, avec le cadre néolibéral actuel, hein, on est tous en concurrence les uns avec les autres, où on est quand même dans un moment politique où il y a un emmurement du monde, c'est-à-dire se développe le refus de l'hospitalité, voire l'hostilité, hein, que ce soit pour les exilés, les étrangers, les personnes non conformes, etc. Cet emmurement du monde emmure les relations humaines aussi. Donc dans un service de psychiatrie, par exemple, ça va renforcer les défenses qui seront que d'un côté, il y a les soignants, de l'autre, il y a les patients. Et donc tout ça, ça ne peut pas faire monde commun. Et donc la contention, elle vient à ce point-là, c'est-à-dire où on désubjective les relations humaines. Et en fait, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est qu'on peut faire autrement. Alors le livre, en fait, il s'ouvre sur des témoignages de personnes qui ont été attachées et qui disent qu'elles ont été traumatisées, voire retraumatisées par ça, que peut-être les soignants ne pouvaient pas faire autrement, mais en tout cas, c'est une expérience traumatique. Et ensuite, je continue en parlant notamment que dans la littérature scientifique internationale, il n'y a jamais dit nulle part que c'est thérapeutique. Hein. Mais il y a une sorte de honte où on parle peu de ça, on étudie peu ça. Et heureusement, il y a des contre-pouvoirs comme le contrôleur général des lieux de privation de liberté, notamment la Convention pour les droits des personnes handicapées de l'ONU aussi, qui est un texte international, et où l'idée, c'est aussi de diminuer les mesures de coercition. Donc, il y a plein d'initiatives aussi internationales pour essayer de transformer cette culture de l'entrave, hein, que voilà, c'est un terme que j'invente dans le livre, qui vient dans la suite de la culture de l'enfermement. Mais là, on est encore plus loin que l'enfermement, on est dans l'entrave. Et dans la culture de l'entrave, il y a aussi toute cette dimension de culture de viol, culture de l'inceste. Et puis l'entrave, bah, ça ne concerne pas que la psychiatrie. Hein. Récemment, l'année dernière, il y avait des manifestations, il y avait des libertés qui ont été bafouées, notamment l'entrave à la liberté de manifester. Voilà. La culture de l'entrave, elle est aussi partagée dans le monde, quoi. Donc voilà, et le livre, la fin du livre se termine, alors il est maillé de récits aussi, de rencontres que moi je vais avoir avec le collectif de soins, avec des personnes en soins, où on va éviter d'avoir recours à la contention, parce que dans le service que je dirigeais, on ne pratiquait plus la contention, voilà, c'était pas une pratique, quoi. Comme 15% des lieux psychiatriques en France, hein, qui ne pratiquent pas ou pratiquent très peu. Et les 85% qui pratiquent beaucoup ou très régulièrement, bah, demandent aux 15% de se justifier. Et les tutelles, comme le ministère de la Santé, comme les ARS, soutiennent la culture de l'entrave plutôt que les contre-cultures à cette culture de l'entrave. Bon. Donc en fait, c'est tout ça qu'amène le bouquin. Et à la fin, il y a une partie sur l'autodéfense, c'est-à-dire comment les premiers concernés peuvent pousser pour réinventer une psychiatrie plus critique et qui se fait avec... et par aussi les premiers concernés, c'est-à-dire les gens qui vont avoir des moments existentiels difficiles, et que la psychiatrie, c'est pas qu'une affaire de psychiatre ou de soignant, mais c'est une affaire démocratique, en fait, de tout le monde, quoi.
La psychiatrie concernerait donc tout le monde et pas seulement les psychiatres et l'ARS, l'autorité régionale de santé. La semaine dernière sur LMTV, une télévision locale de Le Mans, un débat intitulé « Crise psychiatrique en Sarthe, peut-on encore trouver des solutions locales ?» réunissait la directrice de l'EPSM, de l'établissement public de santé mentale, c'est-à-dire l'hôpital d'Allonne, mais aussi un certain nombre de CMP, c'est-à-dire des endroits où vous pouvez avoir une consultation, soit avec un psychiatre, soit avec un infirmier en pratique avancée, soit voir tout simplement un infirmier, un certain nombre de lieux disséminés sur toute la Sarthe qui forment cet établissement public de santé mentale. Donc il y avait dans ce débat la directrice de l'EPSM, un directeur de l'ARS des Pays de la Loire et pour les usagers, le secrétaire départemental de l'UNAFAM, une association de parents et proches de personnes ayant des troubles psychiques. Les usagers en tant que tels ? Nada. Les soignants mobilisés depuis fin 2023 ont eu un reportage au début et on voyait régulièrement des images de différentes manifestations qui ont eu lieu à Allonne notamment depuis cette fin novembre. Le débat s'est appesanti sur le manque de psychiatres, l'attractivité de la Sarthe, la présence d'un représentant des malades aurait sans doute pu permettre d'élever la discussion au-delà des manques de moyens. Par exemple, il aurait pu poser la question, mais comment sont vécus les moments où les soignants attachent ?
Vous parlez de conséquences sur ceux qui sont enfermés et ceux qui sont entravés, mais aussi des conséquences pour les soignants. Le fait d'entraver des gens, c'est pas anodin non plus.
Ce que je dis maintenant, c'est qu'il y a trois destins à la honte. La honte des psychiatrisés, des personnes psychiatrisées, usagées, enfin, ils s'appellent comme ils veulent. Elle est tout le temps là parce qu'ils vivent dans leur corps, dans leur chair, un processus de désubjectivation. Hein. Quand on est attaché, ben on n'est plus maître de son corps et ça désubjective. Bon. Les soignants qui attachent parce qu'on n'attache jamais seul, c'est toujours avec plusieurs personnes. La première fois qu'ils attachent, se sentent pas bien avec ça parce qu'ils sont en prise directe avec le processus de désubjectivation que le patient vit, mais que eux, du coup, vivent aussi. Directement et indirectement. Et en fait, là, après, il y a trois destins à cette difficulté, voire à cette honte, parce que la désubjectivation, ça se manifeste, ça provoque de la honte. Le premier, c'est de dire « c'est pas pour moi » et je m'en vais. Ce qui se passe beaucoup, c'est ça aussi le choc d'inattractivité de l'hôpital en ce moment. C'est plus on a des pratiques dégueulasses, pourries, et moins on les met en question, bah, plus les gens s'en vont. Donc ça, c'est la première chose, des gens qui vont s'en aller. Deuxièmement, des gens qui vont essayer de s'y habituer et qui vont pas le faire, et puis qui vont faire des burn-out, qui vont faire des dépressions, voilà, et ou qui vont changer de service et qui vont arrêter de travailler sur les unités d'intra-hospitalier. Il y a une autre forme qui est régulière, fréquente, très fréquente, c'est T'inquiète pas, tu t'habitueras. Hein, c'est ce que disent les autres qui ont pris l'habitude d'attacher à la personne qui attache pour la première fois. Et dans ce « tu t'habitueras », bah, c'est la culture de l'entrave, c'est « tu vas t'y faire et puis c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement ». C'est ça que je critique, c'est pas qu'on fasse comme ça, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas faire autrement. Or, il faut toujours maintenir ouvert le fait qu'on peut faire autrement. Et puis, il y a une troisième figure au destin de cette honte, qui est celle que on travaille en permanence dans les collectifs de soins qui soutiennent une réflexion collective, quoi. C'est comment on peut mettre en question collectivement nos pratiques. Les mettre en question collectivement, c'est-à-dire quand on fait des trucs qui nous vont pas, de pouvoir en discuter et pouvoir penser ensemble comment on peut essayer de faire autrement. Et quand je dis ensemble, c'est ensemble entre les soignants, mais aussi avec les patients. Voilà, à mesure de leurs problématiques, de leurs difficultés, mais toujours se dire que les pratiques, on doit les construire ensemble, en fait. Et donc, et c'est ça dans le livre, ce que j'appelle le collectif thérapone. Le thérapone, c'est le second au combat. Hein, on entend le thérapeute. Thérapone, c'est Patrocle qui soutient Achille, c'est Sancho Panza qui soutient Don Quichotte. Et en fait, nous, en tant que soignants, finalement, on doit être là comme thérapone, c'est-à-dire on doit soutenir la personne pour qu'elle puisse se trouver une façon d'être dans le monde, d'exister, de faire avec son milieu, que le milieu fasse avec elle et tout ça. Et ce collectif thérapone, c'est finalement pouvoir faire que les hiérarchies instituées à l'hôpital rigides, qui ne se posent plus de questions, elles puissent être subverties pour supporter les questions déjà et supporter le fait qu'on puisse faire autrement. Ce qui nécessite du coup un travail à l'intérieur des collectifs de soins, un travail aussi avec l'institué, par exemple comme l'est un hôpital ou un lieu de soins, même s'il n'est pas hospitalier, ou un lieu d'accueil de la souffrance, la grande souffrance humaine. Et puis, il y a aussi une dimension de comment on peut faire au niveau plus général, politique, social, sociétal, quoi, et au niveau démocratique. Parce que, encore une fois, la psychiatrie, sans démocratie, en fait, c'est l'asilaire, quoi. Et donc on ne peut pas faire une psychiatrie, c'est-à-dire une activité de soin de la psyché, dans un contexte qui n'est pas démocratique. Sinon on fait juste de la répression, quoi.
Donc de fait, plus on a de pratiques dégueulasses et moins on attire. Ah, ça dépend sans doute des métiers, mais là pour le soin, c'est vraiment le cas. Et ben ces pratiques qui repoussent les candidats aux soins en psychiatrie sont sans doute plus faciles à utiliser dans une période moins démocratique. C'est du moins ce qu'assure Mathieu Bellassène. Et ben justement, psychiatrie et démocratie, on pourrait trouver un lien ténu, ben peut-être pas tant que ça.
Donc de fait, la contention s'inscrit dans un moment politique. Peut-être que c'est ce qui vous est reproché quand vous parlez. On vous reproche de faire de la politique plutôt que de parler de psychiatrie. Mais comment faire pour dissocier les deux, c'est-à-dire la façon de faire et le moment politique?
Alors, c'est un reproche facile, régulier. En fait, moi, là, je parle en tant que psychiatre, parce que ce qu'il me faut pour soigner les gens, c'est une société qui soit en pas trop mauvaise santé, démocratique. Et en fait, la psychiatrie en pays totalitaire, en fait, en général, ça craint. La psychiatrie dans un milieu démocratique, ça va un peu mieux, mais ça résout pas tout, parce que le système asilaire, il peut infiltrer tout le temps et partout. C'est-à-dire que c'est une remise en question permanente. Bon. Par exemple, là, sur cette question de est-ce que je fais de la politique là ou est-ce que je fais du soin, en fait, moi, ça ne me parle pas. Moi, en tant que psychiatre, vraiment, le fait que les personnes puissent avoir la parole, ça nécessite de traiter l'ambiance de la parole entre nous dans un service de soins. Et quand je dis nous, bah, c'est un nous extensif, hein, avec les personnes concernées, avec les familles et tout ça. Mais ça nécessite aussi de savoir comment est traitée la parole au niveau de la société. Quand vous avez une société qui a des représentants qui trahissent en permanence la parole donnée ou qui trahissent les mots en permanence, c'est-à-dire qu'ils disent que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font alors qu'ils font l'inverse, bah ça rend fou. Ça rend fou tout le monde. Et du coup, y a aussi une nécessité de remettre le monde à l'endroit. Quand il est à l'envers. Et en fait, le remettre à l'endroit que pour les personnes qui sont supposées avoir la tête à l'envers, bah, ça veut dire qu'ils vont avoir la tête à l'envers dans le monde qui est à l'envers. Donc, en fait, il y a une stratégie un peu collectif, quoi, de penser comment on peut créer de la démocratie. Et la démocratie, pour moi, c'est pas la démocratie représentative seulement, c'est ce que Cornelius Castoriadis appelait l'institution explicite de la société par elle-même, c'est-à-dire qu'on se donne à soi-même, collectivement, sociétalement, ses propres lois. Et ça, en fait, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est toujours à faire, c'est toujours sur le métier. Et il n'y aura jamais une société idéale, c'est un mouvement permanent, quoi. Donc, bah voilà, la psychiatrie, elle est un fragment de la société. Elle est un fragment de la société dans laquelle on est. Et pour ne pas être dans le déni de la réalité, bah, faut aussi penser la société dans laquelle on est pour voir quels effets ça a sur la psychiatrie. Un exemple, en 2017, il y avait une étude qui disait que 45 à 55% des personnes paramédicales travaillant dans les hôpitaux allaient voter Front National. Ben forcément, ça a des effets sur le rapport avec les patients. Quand les gens, ils ont des verrous dans leur tête et ils ont l'exclusion facile, forcément, ça a des effets directs dans les pratiques. Alors oui, ils ne font pas de la politique. N'empêche qu'ils vont se tenir en tant que sujet d'une société, en tant que sujet citoyen, avec d'autres sujets citoyens. Et là-dedans, en plus, il y a des rapports de pouvoir et de domination. Donc c'est bien aussi de les penser pour savoir comment on peut avoir des marges thérapeutiques. Parce que un lieu de soins, il peut être aliénant et il peut être aussi thérapeutique. Et donc pour qu'il soit thérapeutique, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs à l'intérieur. Et il faut aussi qu'il y ait des contre-pouvoirs dans la société. Alors c'est ça la démocratie, pouvoir contre pouvoir.
Mais la démocratie, elle existe à l'hôpital, puisqu'il y a une loi de 2016 sur la démocratie sanitaire qui justement donne plus de place aux usagers.
Oui, mais alors, la démocratie sanitaire, c'est une démocratie représentative sanitaire. On voit bien le sort de la démocratie représentative en ce moment. Enfin, pensez aux gilets jaunes quand même. C'est-à-dire que des gens demandent à avoir une démocratie un peu plus directe, etc. Et on leur envoie les CRS et puis on les éborgne et on les mutile. Bon. La démocratie sanitaire dans les hôpitaux, c'est la même chose. Moi, j'ai été destitué de mes fonctions de médecin-chef. La démocratie sanitaire, ça a permis que, par exemple, les représentants des associations de familles de l'hôpital, contaminés par le sécuritaire ambiant, soutiennent des enfermements illégaux et arbitraires. Et aide à la destitution. Il y a aussi que des syndicats, entre guillemets, progressistes localement, soutiennent les enfermements en disant que les illégalités qu'on a dénoncées et qui ont été reconnues comme telles par le contrôleur des libertés dans une recommandation d'urgence, qui est parue au journal officiel quand même, et donc nationalement ça a fait grand bruit, eh bien, ces syndicats vont dire que j'ai terni l'image de l'hôpital. Alors que ce qui ternit l'image de l'hôpital, c'est les pratiques dégueulasses. C'est pas de dénoncer les pratiques dégueulasses. Ça, c'est le vieux renversement qu'on observe, voilà, et qui fait l'objet souvent de répression. Donc, si vous voulez, la démocratie sanitaire, quand elle est sur un terreau pourri de la démocratie sociale, ben, elle est pourrie aussi. Par contre, elle peut aussi servir de contre-pouvoir, la démocratie sanitaire. Ça dépend beaucoup des lieux dans lesquels on est, des milieux, des gens qu'il y a. Enfin, il y a des histoires locales aussi. C'est-à-dire que c'est pas la même chose travailler dans un hôpital où le directeur, comme un des directeurs là en Vendée, veut tendre vers le zéro contention à un horizon de quelques années, que travailler dans un hôpital où on se pose pas la question des contentions. C'est pas la même chose, ça fait pas la même démocratie sanitaire, c'est pas la même démocratie sanitaire quand il y a des associations de familles et d'usagers qui soutiennent des pratiques d'ouverture et d'émancipation plutôt que des pratiques d'enfermement. C'est aussi des histoires locales, mais qui s'articulent à une ambiance nationale, générale et tout ça. C'est pour ça aussi que, à la fin du livre, je fais un tour du monde des pratiques alternatives ou des tentatives de pratiques alternatives, parce que faut pas s'enfermer non plus juste en France. Faut essayer de voir la réflexion que peuvent avoir les uns les autres dans le monde. Et alors, ce qui est étonnant, moi, ce qui m'a troublé, c'est que les gens redécouvrent l'eau chaude un peu partout dans le monde, notamment que si on veut diminuer les pratiques de contention, d'isolement, de contrainte, quoi, faut associer les usagers, les premiers concernés dans les services de soins. Il faut parler avec eux, il faut qu'eux puissent former aussi les gens. Il faut avoir un leadership, comme ils appellent ça aux États-Unis, en Angleterre, clair, et des personnes qui dirigent les services de soins et des directions des hôpitaux et des politiques nationales. Bon, des choses, ma foi, très classiques pour les gens qui travaillent avec la psychothérapie institutionnelle, le désaliénisme, quoi. C'est-à-dire, bah oui, il faut faire avec tout le monde. Et il faut écouter la parole des premiers concernés et il faut tenir un cap de culture de soins qui soit pas la culture de l'entrave. Et ben ça, voilà, il y a plein d'initiatives un peu partout qui se développent. Le truc, c'est de les fédérer et de faire une sorte d'international des contre-cultures à la culture de l'entrave, quoi.
Et de fait, si ça devient majoritaire, ça deviendra la normalité et ça sera aux autres, après, de justifier la culture de l'entrave.
Ouais, alors je sais pas si ça deviendra majoritaire un jour, mais en fait, les combats minoritaires... permettent souvent de transformer les choses vraiment. La psychiatrie d'après-guerre émancipatrice, elle s'est construite à partir de minoritaires. Hein. Donc c'est pas la majorité qui était pour l'ouverture, etc. C'était une minorité, mais une minorité active. Et je pense que là, tout le combat, c'est aussi un combat imaginaire. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, et d'ailleurs le contrôleur des libertés le dit, il dit, voilà, à partir du moment où il y a des services qui se passent de contention, que les services qui attachent nous disent pourquoi ils ne peuvent pas s'en passer. C'est un renversement de la charge de la preuve. Voilà, c'est un premier point, et peut-être ça ne sera jamais majoritaire, mais qu'au niveau imaginaire et au niveau politique, on porte ça, et on le porte vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des fois, bah, faut des moyens, faut du fric, et on nous dit qu'on va faire des économies là, pour la sécurité sociale. Donc du fric, il y en a, donc faut investir là où on veut que la société soit plus dans l'hospitalité, dans l'accueil, quoi. Si on fait ça comme projet de société. En ce moment, on peut dire que le projet de société n'est pas majoritairement dans ce sens-là, mais c'est pas pour autant qu'il ne va pas falloir lutter pour le transformer. Hein.
Donc, transformation du projet de société par des pratiques minoritaires. D'accord. Déjà, penser qu'on peut faire autrement et vérifier si c'est mieux. Un petit livre donc de Mathieu Bellassène qui s'intitule donc « Abolir la contention » paru en 2023 aux éditions Libertalia. À lire pour mieux comprendre cette culture de l'entrave qui nous bouche les yeux quant au traitement à envisager pour gérer la différence en psychiatrie mais aussi la différence au sens large. Il nous reste un petit peu de temps pour vous dire que il se passe des choses, notamment ce week-end, les journées du dehors. J'avoue que je ne connais pas. Ça se passe à Mont-Saint-Jean, 72 140. Mont-Saint-Jean, le piton du dehors, lieu dit de la Rainerie. Tout cet après-midi du samedi 27 avril, de 13h30 à 19h30, enfin même un petit peu après, atelier sur la sécurité sociale de l'alimentation animé par Cadran. Un concert, du théâtre d'improvisation et à partir de 19h30, un repas commun apporté à boire et à manger. Voilà, 13h30, atelier sur la sécurité sociale de l'alimentation animé par Cadran. Allez y faire un petit tour, c'est quoi cette sécurité sociale de l'alimentation? Nous en avons déjà parlé, plus d'informations sur sécurité-sociale-alimentation.org. L'idée que il y a une sécurité sociale qui nous protège contre les aléas de la vie, comme on dit, eh ben pourquoi pas au niveau ce dont on a besoin, en particulier pour survivre, comme par exemple l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe aussi également randonnons, je vais y arriver, en famille le dimanche 28 avril à 14h30, rendez-vous année de Fontenay à Écomoy. Pourquoi? Eh bien c'est un échange et une randonnée contre le projet d'entrepôt à Écomoy. Des entrepôts en veux-tu, en voilà, il y en a plein partout. Une association de lutte contre le futur entrepôt basée à Écomoy s'est créée. Elle s'appelle Aurée de Bercé Bélinois Environnement. Et vous pouvez leur écrire sur odbbe@proton.me. odbbe@proton.me. Allez les voir aussi le dimanche 28 avril à 14h30. Rendez-vous allée de Fontenay à Écomoy. On aurait pu également vous dire qu'il se passe plein de choses, notamment la semaine prochaine, le 1er mai, avec donc ce village des luttes au guet de Molny à Le Mans, et puis ailleurs, je sais pas où ont lieu les rendez-vous. Pour vous tenir au courant, n'oubliez pas sarthe.demosphère.net. Et la semaine prochaine, c'est relâche pour Radicaux Libres. Bah, du coup, on vous donne rendez-vous début mai. On sera le 10, le 11, un truc comme ça. Donc, on vous dit tout simplement au revoir.